Direct en jeu, la radio insolite, direction tout droit des United States, non, plutôt direction Paris, puisqu'en fait, il a vécu aux États-Unis. Il est venu s'installer il y a à peine 4 ans à Paris. Et alors là, je suis très heureux. Alors, je vais faire attention, je ne vais pas l'appeler Conan Doyle parce que ce n'est pas le même.
Non.
C'est peut-être la même famille, qui sait. Owen non. Doyle. Bonjour, Owen.
Bonjour, Alain.
Alors, tu t'es lancé dans un premier temps comme aux États-Unis, en particulier, je crois, à Boston. Tu es tombé dedans quand tu étais petit. Et puis, tu es arrivé à Paris.
Oui. Bah, c'est ma deuxième arrivée à Paris. En fait, je suis tombé effectivement dedans pour le théâtre tout petit. Mais en même temps, j'ai suivi une formation d'ingénieur et je suis venu en Paris dans les années 80, dans un premier temps, pour une école d'ingénieur. Et j'ai enchaîné avec une formation théâtrale à Paris. Et ensuite, pour des raisons diverses, je me suis marié en France et je suis retourné aux États-Unis pour une autre formation d'ingénieur, cette fois à Boston. Mmh. Et c'est là qu'on est resté et c'est là que je suis lancé dans la profession pour de vrai, on va dire, en vivant un peu une double vie d'ingénieur et de comédien. Donc j'ai pu faire sur 10 ans, 15 ans, plus de 20 spectacles. Et là, pour des raisons familiales, on est revenu en France et me voici plongé dans l'aventure du théâtre en France.
Mais attends, ingénieur, c'était quand même un métier important.
Oui, j'ai passé pas mal d'heures là-dedans, mais j'ai eu la chance de pouvoir faire ça à temps partiel. Mmh. Et justement, j'étais formé un peu comme ingénieur électronique, mais c'était pas assez souple pour faire du théâtre. J'ai toujours eu, parce que j'ai eu des formations théâtrales professionnelles, j'ai fait brièvement l'école Lecoq il y a 40 ou 35 ans, l'atelier international de théâtre aussi. Donc j'ai toujours essayé de combiner les deux, un peu pour des raisons financières, familiales et autres. Et j'ai aussi une fibre un peu d'ingénieur dans ma tête. Bref, mais donc j'ai trouvé la façon de faire ça à temps partiel, tout en étant la manière de produire des spectacles à Boston s'y prêtait peut-être un peu. Donc voilà, j'ai réussi à faire les deux, tout en ayant effectivement mes passions, c'est plutôt théâtre, écriture, poésie, mais ingénieur, c'est sympa aussi.
Et pourquoi le théâtre? Ça a été une passion quand tu étais tout petit? Ça a été
Tout petit. Ah oui, depuis toujours. Là, je sais, j'ai aucun souvenir de ma vie où je faisais pas un peu des petits spectacles. Bon. Et à l'école, collège, lycée, à l'époque aussi aux États-Unis, on faisait surtout des comédies musicales. Au lycée, en fac, pas mal aussi, du Goldoni, du Beckett et autres aux États-Unis. Donc j'ai toujours voulu faire ça. J'ai pas eu au moment critique le courage de m'y lancer à temps plein. Mais depuis, j'essaie de combiner les deux et maintenant, je ne fais que ça.
D'accord. Et donc là, c'est carrément une passion, quoi. C'est une profession de foi.
Absolument. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis j'ai réussi, j'étais une profession de foi depuis toujours, mais passer le cap professionnel, c'est pas facile pour personne, ni en France, ni aux États-Unis. Donc à Boston, j'ai eu la chance de pouvoir un peu insister sur un temps partiel dans mon boulot alimentaire, on va dire, pour pouvoir poursuivre le théâtre professionnel. Donc je suis professionnel depuis 2003, membre du syndicat des acteurs américains depuis 2005, et j'y tiens beaucoup à cette professionnalisme, parce que combiner la passion avec la discipline, on va dire, de faire des spectacles les uns après les autres de façon aussi pro que possible.
Là, tu t'attaques à un gros morceau qui s'appelle l'éducation de Rita. Alors, il faut que je te dise bravo et merci quand même. Parce que, heureusement, tu laisses quand même un peu de place à Maxime, à Anaïs, à Cathy. Parce que sinon, si je devais résumer, tu fais tout. Metteur en scène, tu fais aussi la scénographie et tu fais, tu joues. Heureusement qu'il y a un peu de place pour les autres.
Mais je vais dire, c'est un peu la nature de la chose. J'aurais préféré être uniquement acteur. Et d'ailleurs, avec Anaïs, qui fait la mise en scène de Carpe Diem, qui joue demain à Paris, qui ouvre.
Qu'on a eu le plaisir d'accueillir sur la radio la semaine dernière. Donc,
J'ai vu ça. Moi, je suis ravi d'être juste comédien. Il se trouve, une des premières choses que j'ai entendues dans le cours Cochet, parce que en venant aux États-Unis, je suis passé par le cours Cochet pour travailler un peu de répertoire français. Et là, dans les premiers cours, en s'adressant essentiellement aux jeunes qui étaient là, mais moi, parmi les moins jeunes qui étaient aussi là, de dire si vous voulez jouer en France ou à Paris, et vous montez vos propres spectacles. C'est comme ça que ça marche. C'est des choses qui m'avaient un peu interpellé. Donc, en fait, pour monter les spectacles, je me suis mis en binôme avec Maxime et Orvindich, superbe comédienne, pour monter Rita. Mais en fait, il fallait mettre la main à la pâte et tout faire. J'étais, malgré moi, chef de projet, metteur en scène, on allait chercher peut-être quelqu'un d'autre, mais finalement, la fibre, c'est une écriture anglo-saxonne. Mm-hmm. Je veux être dans un jeu, c'est comique, c'est léger, c'est riche, c'est littéraire, mais où je voulais être un peu dans le jeu le plus naturaliste possible. Donc voilà, j'ai endossé cette responsabilité-là. La scénographie, c'est parce que juste par la nature des choses, j'étais obligé de construire des bibliothèques chez moi pour présenter le spectacle à un échantillon. D'accord. Mais j'ai eu l'intelligence de m'appuyer sur Anaïs Adric, formidable scénographe, pour que l'ensemble soit aussi beau qu'il l'est maintenant. Donc voilà, Cathy, qui était l'assistante metteuse en scène, une anglaise, voilà, c'est évidemment très important d'avoir toute cette équipe. D'ailleurs, un peu difficile, parce que parfois, on avait Cathy, donc, Aigmaillet, l'assistante metteuse en scène, Anaïs, qui est aussi metteuse en scène et scénographe, et la traductrice, qui est une amie proche de Willie Russell, Catherine Marc-Angeli, qui était aussi dans la salle. Donc moi, soi-disant metteur en scène, sur le plateau, jouant avec grand plaisir avec Maxime Lior, et puis trois retours, pas toujours les mêmes. Donc le travail d'équipe, pour être sûr que d'autres voient que la mienne, je ne suis pas du tout le genre à dire « ça sera comme je veux », à part le fait de vouloir vraiment rendre la pièce humaine, avec un jeu tout à fait d'une authenticité maximum pour nous. D'accord. Donc voilà, évidemment, on ne peut pas tout faire tout seul. J'ai trop fait tout seul.
D'accord. Alors, comme je dis, là, tu t'attaques à un très gros morceau parce que c'est l'une des plus célèbres comédies britanniques, L'Éducation de Rita, puisqu'elle a été créée par le Royal Shakespeare Company au Warehouse de Londres en 1980, récompensée en plus par le prix Laurence Olivier Award de la meilleure comédie. Et elle joue en continu dans le monde entier, en Angleterre évidemment, depuis plus de 40 ans. Ça va, je veux dire, ça fait un sacré morceau quand même.
Bah, tout à fait, mais c'est pour de bonnes raisons. La pièce est tellement riche. Il y a eu de très bonnes traductions dans le passé, mais celle-ci, je trouve qu'elle est superbe, Catherine Marc-Angeli. Donc c'est une nouvelle, c'est pas la première production professionnelle de Rita en France, mais on est très content de pouvoir l'introduire à un public français qui connaît moins bien que le monde anglo-saxon. Mmh. D'ailleurs, j'ai un collègue à Boston qui, l'été dernier, l'a joué. Ça joue tout le temps, partout. Mmh. Et pour de bonnes raisons, parce que c'est tellement riche le parcours de cette femme qui veut se libérer par l'éducation, mais qui tombe sur un prof. La dynamique est très complexe, c'est très riche, très drôle. Voilà, c'est un grand plaisir. D'ailleurs, c'est une professeure du cours Cochet, Caroline Darnay, qui m'a suggéré de commencer à travailler cette scène en cours, et c'est un peu ça la genèse du projet, parce que c'est vraiment un morceau magnifique.
D'accord. Alors, ce qui est original, c'est tel que c'est présenté, elle, qui est coiffeuse, donc rêve de devenir une femme cultivée.
Oui.
C'est original, parce que bon, qu'est-ce qu'on entend par une femme cultivée ?
Bah, en fait, elle c'est un peu ça sort un petit peu de l'expérience de Willie Russell, qui était aussi coiffeur à Liverpool. C'est une femme, c'est un peu toujours d'actualité, mais même à l'époque, c'était peut-être encore plus, qui se sent enfermée dans son milieu social, familial. Son mari n'attend qu'une chose, c'est qu'elle ait un enfant. Et elle n'est pas prête, elle n'a pas envie, elle veut avoir un horizon plus large, avoir plus de choix dans sa vie. Et elle fait le pari, de faire un cours du soir en disant bah, peut-être que si je retourne à l'école, parce que quand j'étais jeune, l'école c'était naze, c'était pas cool d'être bon élève. Mais elle dit à 29 ans, allez, je vais retourner à des cours du soir, je vais voir ce que ça donne, ça serait peut-être une porte, ça peut peut-être ouvrir une porte. Et au milieu de la première scène, elle dit au prof, si j'étais tombé sur un autre prof, je serais parti. Donc elle a la chance de tomber à la fois sur un prof qui, un peu décrocheur lui-même, qui est désabusé par les élèves, mais il a quelque chose qu'elle apprécie, sa façon à lui de l'accueillir, d'être ouvert. Elle utilise des gros mots, il dit « ça ne me gêne pas du tout », il l'invite à boire, il a une certaine qualité qu'elle dit « voilà, je ne suis pas auprès d'un pédagogue carré, et ça me convient pour poursuivre cette aventure ». Et c'est elle qui mène l'aventure en disant et en insistant pour cette transformation avec l'intuition qu'elle a. Elle est pétillante d'énergie, elle est intelligente, l'intuition qu'elle a que cette ouverture, cette culture va m'ouvrir d'autres horizons dans ma vie. Ce qui est magnifique, effectivement, elle tombe sur des auteurs comme Tchekhov, comme Ibsen, comme Shakespeare, qui par leur écriture riche et très humaine, lui, effectivement, ouvrait les horizons. Franck, il l'aide parce qu'elle insiste. Au début, il dit, bah, je peux ne vous faire que du mal. Mmh. Et elle dit, non, c'est vous le professeur que je veux et c'est ce parcours-là que je veux. Et donc, il se loue d'amitié, se lie d'amitié, pardon. Mmh. Et c'est un parcours extrêmement riche, dirigé par l'énergie de Rita. Et d'accord. Effectivement, pour pouvoir sortir de son milieu social de Liverpool et de son milieu familial, où en fait on allait regarder la télé tous les soirs, on allait au bar, on n'avait pas une vie culturelle, il ne venait pas de ce milieu-là, et c'est ça qu'elle voulait.
D'accord. C'est facile de transposer une pièce qui était en anglais, de la transposer en français en faisant passer les mêmes messages ?
Alors ça, c'est une excellente question. Je suis totalement incompétent pour juger parce que je suis totalement américain. Mais d'après tous les témoignages, la traduction de Catherine Marc-Angélie est particulièrement excellente, je trouve. Et les Français qui sont compétents le confirment. Je pense en partie, bon, elle est française, mais elle a depuis très longtemps passé beaucoup de temps à Liverpool. Elle connaît bien Woody Russell et son entourage. Et donc, elle a su vraiment capter, traduire, ne pas être tombée dans les pièges des traductions littérales qui ne marchent pas, de capter vraiment ce feeling. C'est vrai que obligatoirement la dynamique une femme de Liverpool et un prof, il y a des dimensions qui passent pas tout à fait en France, et pas de la même façon, on va dire. Et il y a tellement d'éléments riches dans la relation entre les deux et dans le parcours de cette femme et dans la rencontre avec la littérature qui est en fait un tremplin vers plein d'autres choses qu'on a focalisé sur cet aspect-là plus sur essayer de faire une équivalente de la femme de Liverpool. Qui marche très bien en anglais. Donc il faut faire des choix dans un peu les interprétations. Mais je trouve que Catherine Marc-Angélie a fait vraiment un travail magnifique d'adaptation justement pour un public français de cette pièce bien anglaise.
D'accord. C'est pas compliqué quand on est comédien d'être aussi metteur en scène et d'être aussi scénographe ?
Alors, c'est totalement. Enfin, le scénographe, c'est un peu par la force des choses, et c'est Anaïs qui a pris la relève, donc je la remercie pour ça. Mmh. Au niveau de la mise en scène, oui, c'est impossible. Je dirais, j'aurais jamais eu l'idée de faire ça. C'est une très mauvaise idée, d'après moi, d'ailleurs. Enfin, bon, ça se fait beaucoup. L'avantage ici, c'est qu'on est deux sur le plateau, et que moi, en tant que metteur en scène, on va dire direction d'acteur, la fibre que je me cherchais, c'est vraiment une relation totalement réelle et vraie entre ces deux personnes. Donc, d'accord, ça se prête beaucoup à une forme d'improvisation dans le jeu, sur le texte, magnifiquement donné, par l'auteur et la traductrice. Simplement, on n'a qu'à jouer la scène entre nous comme si c'était vrai. Ça, c'est une citation de Claudel, je crois, c'était beaucoup par Louis Jouvet, il se passe quelque chose sur scène comme si c'était vrai. Et donc, nous deux, dans une salle de répétition, on bossait ensemble comme si c'était vrai. Et après, effectivement, il fallait les retours des autres, leur regard extérieur pour voir les choses qui clochaient. Mais c'est un genre de travail qui se prêtait à cette question. Et je cherchais pas spécialement des grands effets de mise en scène. Bon, ça fait longtemps que je fais du théâtre, donc au niveau espace, il y a des réflexes que j'espère avoir acquis. J'avais le regard extérieur pour corriger mes erreurs. Au niveau des déplacements, pour être sûr que ça ne soit pas statique, pour être sûr que les intentions soient claires, etc. Mais la pièce est tellement bien écrite, on a découvert, moi, avec Maxime Lior, certaines scènes où à l'écriture, on dit, oh là, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ou moi, je dis, metteur en scène, comment on va interpréter ça? Et en fait, il a suffi de la jouer comme ça, le plus naturel possible, et tous les deux, on se regardait en se disant, ça marche tout seul. C'est une pièce tellement bien écrite, c'est tous les rebondissements, les appuis de jeu, tout le cœur de l'action est là. Il suffit que nous, on soit authentiques dans notre jeu, l'un vers l'autre, bien connectés. Après, effectivement, il y a des questions techniques où j'ai eu l'aide du regard extérieur, mais globalement, je rejoins je ne le referai plus si je peux l'éviter, de jouer et d'être metteur en scène en même temps.
D'accord.
C'est dur.
Ça va se jouer au Théâtre de l'Adresse du 5 au 26 juillet, donc sur le Festival Off d'Avignon 2025. C'est ton premier off ?
Absolument. En tant que comédien ou metteur en scène, c'est mon premier off.
Et alors ?
Un peu paniqué, non, ça va aller très bien. Maxime, elle a fait plusieurs fois. Moi, j'essaie de me mettre dans les conditions. Le théâtre, déjà, l'accueil au théâtre de l'Adresse est super. Donc, je suis très rassuré par comment ça va se passer. Mais c'est sûr que c'est un grand morceau, c'est un grand effort.
Est-ce que tu vas le jouer avant? Est-ce qu'on a une chance de te voir juste avant Avignon?
Alors, on a joué beaucoup à Paris déjà, mais d'ici Avignon, non, on n'a pas d'autres dates. On a des dates après, enfin une date. On cherche à en avoir d'autres, bien sûr. Donc non, pour l'instant. Mais on a joué beaucoup aux têtes du Funambule à Montmartre l'année dernière, enfin en 2023 et 2024. On a fait un festival l'été dernier à Montrevelay. Donc voilà, on cherche à avoir d'autres dates. Je pense que c'est une pièce qui peut plaire à un très grand public. Ben voilà, on passe par Avignon pour voir si ça peut partir ailleurs.
D'accord. Bah écoute, moi, je vais te remercier parce que c'est vrai que tu donnes, en t'écoutant, tu donnes envie de venir voir quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Et puis, cette transposition, comment dire, d'une comédie britannique en français avec une belle histoire, c'est toujours intéressant là-dessus. Donc, merci d'avoir pris ces quelques minutes pour nous expliquer tout
merci
ça.
Merci beaucoup, Alain. Merci.